Alors, c'est un témoignage d'un enseignement très simple qui prend sa source dans un message de Jean-Paul II. Jean-Paul II a vraiment eu des messages très forts, et notamment en l'année 2003, c'était l'année mariale. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Il avait sorti une très belle lettre sur le rosaire, où il avait notamment mis en avant l'importance de la dévotion mariale, en précisant, on peut faire cocorico, nous les Français, pas toujours, hein, parce que des fois c'est un peu notre, je connaissais notre gros défaut, hein, les Français, on dit, je ne sais pas si je vais dire ça ici, c'est possible, il paraît que c'est enregistré, mais il paraît que le symbole des Français c'est le coq, parce que c'est l'animal qui est capable de faire cocorico tout en ayant les pieds sur un tas de fumier, c'est ce que je veux dire. Donc voilà. Donc, mais on peut faire cocorico pour ça, c'est que le pape Jean-Paul II a cité un saint français pour parler de la dévotion mariale en ce lieu, à Borin, où la Vierge Marie est apparue. On peut rendre grâce pour Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui avait cette intimité tellement forte avec la Vierge Marie et qui était un grand prophète, puisqu'il a invité à une époque où les gens ne disaient pas tant la parole de Dieu que ça. Il a invité à dire le chapelet de manière méditative. Et Jean-Paul II a fait une lettre pour le monde entier, la lettre sur le Très-Saint-Rosaire, dans laquelle il dit, quand vous dites le chapelet, c'est très bien, mais si vous le dites en le méditant, c'est encore mieux. Et il a dit, faites ce que faisait Saint-Louis-Marie et Léon Montfort. Quels sont ceux d'entre vous qui connaissaient le système des clausules? Levez la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait à peine une dizaine. Hein. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'une clausule? Ben, c'est ce qu'a inventé Saint-Louis Grignon Marie de Montfort. Le pape Jean-Paul II explique, quand on dit son chapelet, on peut le dire comme prière du cœur. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le Chotki. Le Chotki, c'est un chapelet en laine noire qu'utilisent nos frères orthodoxes en Orient. Et sur chaque grain, il dit « Seigneur Jésus, fils du vivant, prends pitié de moi, pécheur. » Ou bien il dit « Jésus, mon Dieu, Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur sans volonté, sans blague au tien. » Donc un certain nombre de formules, c'est ce qu'on appelle la prière du cœur. On en parle même dans le catéchisme. On peut même dire sur chaque grain « Jésus, 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 pardon. » Eh bien, quand je tire mon chapelet personnellement en voiture, souvent je dis cette manière-là, c'est-à-dire la prière du cœur, la répétition. Jean-Paul II disait dans cette lettre encyclique sur le rosaire, il disait dire le chapelet en 2003, prêcher sur le chapelet, dire aux gens de dire le chapelet, ça peut paraître bizarre, parce qu'en fait, déjà à l'époque de Jésus, Jésus disait, quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Or, un chapelet, c'est, je vous salue Marie-Pierre, c'est toi de Dieu, Sainte Marie-Mère de Dieu, je vous salue Marie-Pierre, on a l'impression qu'on, voilà. Et alors Jean-Paul II a cette trouvaille géniale, il dit, mais, c'est un texte d'ailleurs auquel j'ai fait allusion hier dans mon témoignage. Il dit, regardez à la fin de l'évangile le dialogue entre Pierre et Jésus. Pierre, m'aimes-tu, oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu, oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu, oui, Seigneur, je t'aime. Par trois fois. Eh bien, il dit, Pierre est entré dans la psychologie de l'amour. Ou plutôt, Jésus a utilisé la psychologie de l'amour avec Pierre. La répétition. Est-ce que tu m'aimes, oui, je t'aime. La répétition, est-ce que tu m'aimes. Alors, il explique ça. Imaginez que quelqu'un d'entre vous, quand vous étiez plus jeune, ou quand vous êtes encore maintenant, vous avez votre épouse, vous êtes un mec, les mecs sont tous pareils, pas tous, il ne faut pas généraliser, mais souvent. Et votre femme, elle vous dit, chérie, est-ce que tu m'aimes? Puis attends, je t'ai déjà dit, je vais me marier, je ne vais pas te répéter ça tous les jours. Hein. Mais elle, la femme, elle a envie d'entendre répéter, mais oui, je t'aime, etc. C'est un peu un cliché, mais c'est un peu vrai. Eh bien, Dieu, il a un cœur féminin. Il aime bien cette répétition. Il n'y a pas que Pierre qui doit répéter que je l'aime. Oui. Pierre, même si Seigneur, je t'aime, toi, Bertrand, Louise, Madeleine, Jacques, Pierre, est-ce que tu aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Donc, le chapelet, il faut le comprendre comme étant une répétition d'une parole d'amour en utilisant, ça aussi c'est très fort, la première partie du chapelet, c'est que biblique. Je te salue, Marie, pleine de grâce, et Seigneur, avec toi, c'est quoi? C'est la salutation de l'ange à Marie, sous l'impulsion envoyée par Dieu. Et ensuite, tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. C'est l'impulsion, c'est Élisabeth qui le dit, sous l'impulsion de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint a tressailli en moi et j'ai dit que. Donc c'est vraiment Dieu qui a choisi ces deux phrases. Donc c'est Dieu qui salue Marie. Donc quand tu dis « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, Jésus, le Seigneur est béni », chaque fois que tu dis ça avec ton cœur et que tu le répètes, tu ne fais que répéter une parole d'amour venant de Dieu et qui retourne à Dieu. C'est bon? Mais Jean-Paul II va dire, ça c'est déjà génial, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi la méditation des clausules. C'est une autre manière de dire le chapelet. L'un ne chasse pas l'autre. Ça se complète. Personnellement, quand je dis le chapelet des jeunes, en marchant, quand je fais des pèlerinages, j'utilise cette formule-là des clausules. Quand je dis personnellement en voiture, j'utilise plutôt celle systématique parce qu'il ne faut pas être trop distrait, il faut bien se concentrer sur la route, etc. etc. Donc, les clausules, c'est quoi? C'est rajouter à chaque « Je vous salue » un passage de l'Évangile. Par exemple, troisième mystère joyeux. C'est quoi le troisième mystère joyeux? La nativité. « Je vous salue, Marie-Pierre, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Et Jésus, au même dire, le fruit de votre est béni, vous dites quelque chose comme ça, tout vrai, spontanément, vous faites une méditation. « Et Jésus, ton enfant, qui est sur les genoux de Marie, est béni. Et Jésus, ton enfant, qui est réchauffé par l'âme et le bœuf, est béni. » Vous voyez, vous êtes sur le mystère de la nativité. Ou alors, vous êtes par exemple sur le mystère. C'est pour ça que Jean-Paul II a rajouté le fameux mystère lumineux, parce qu'il a dit, si on médite avec Jésus, il manque une partie. Il y avait les joyeux, l'enfance, il y avait les douloureux, et il manquait ce qu'il appelle les lumineuses sur la vie de Jésus. Moi, j'aime beaucoup les méditer, comme je suis un petit peu missionnaire. Alors, quand je dis le chapitre sur la dizaine, sur Jésus qui prêche, donc après le baptême, les noces de Cana, il y a le fameux Jésus qui part en mission, alors là, c'est enfer, hein. Et Jésus, ton enfant, qui guérit le paralytique, et Jésus, ton enfant, qui ressuscite Lazare, et Jésus, ton enfant, qui pardonne à la pécheresse, c'est génial! Et quand vous faites le chapelet comme ça, ça change tout. Il y a des gens qui disent, oui, mais on disait, j'allais à Bourin, j'avais la grâce du chapelet, petit à petit, c'est parti. Ben, c'est peut-être parce que vous ne nourrissez pas assez. Et Jean-Paul II a cette formule belle, il dit, eh bien, ceux qui veulent vraiment dire le chapelet ne peuvent le faire que dans la mesure où ils font une vraie lecture divine. On ne peut bien prier le chapelet que dans la mesure où on connaît bien la parole de Dieu. Et le but, c'est pour ça qu'on appelle ça les mystères. Le but de la vie chrétienne, c'est de marcher avec Jésus, de connaître Jésus et d'aimer Jésus. Donc, le chapelet, c'est revisiter la vie de Jésus. Et sa vie, c'est un mystère, parce que, voilà, un mystère qui est maritain, ce n'est pas quelque chose qui n'a rien à comprendre, c'est quelque chose qui a trop à comprendre. Donc, plus j'avancerai dans la récitation du chapelet, de la méditation, de la contemplation de la vie de Jésus, et plus l'Esprit Saint vous éclairera et vous comprendrez des choses et ça va vous éclairer pour votre vie. Alors ça, c'était une introduction. Parce que Jésus, Jean-Paul II, dans cette fameuse lettre aux jeunes qu'il envoie donc au JMJ diocésain, parce que vous savez qu'il y a le JMJ international, et puis régulièrement, chaque dimanche des rameaux, il y a un message du pape pour les jeunes depuis pas mal d'années, c'est Jean-Paul II qui a inventé ce truc-là. Et l'année du rosaire, il envoie un message que je vous conseille de trouver sur Internet, qui s'appelle « Voici ta mère ». Voici ta mère. Vous tapez Jean-Paul II, voici ta mère, sur Google, je crois que ça sort assez rapidement. Il dit ceci, qui est ma phrase d'introduction à l'enseignement. Chers jeunes, ou chers amis, vous le savez bien, le christianisme n'est pas une simple opinion. Moi, je suis chrétien, voilà, mes parents étaient chrétiens, je suis chrétien parce que j'ai été élevé là-dedans. Et non plus, le christianisme ne consiste pas en de vaines paroles. Un ensemble de pensées, une manière de voir la vie, une doctrine, un enseignement. Non, le christianisme, c'est le Christ. C'est l'adhésion à une personne. Le pape François est revenu là-dessus dans cette fameuse encyclique que je vous conseille vivement d'acheter, Lumen Fidei. Même si ça sera entre nous, si vous connaissez un petit peu le pape François en lisant sur Zénith, ses amis du matin, vous vous rendrez compte que Lumen Fidei, c'est à 95% du Benoît XVI. Bon, on voit vraiment la structure du penseur, philosophe et théologien du Benoît XVI. On retrouve pas trop François. Mais François a quand même signé en bas. Voilà. Mais il le dit, hein, c'est le jour. Je ne veux pas escouper, il le dit lui-même au début de l'encyclique en disant c'est le travail de Benoît XVI essentiellement. Donc, pour revenir à François, a repris ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que le christianisme, c'est vraiment la rencontre de Jésus. Et il dit dans cette encyclique, un moment, il faut regarder avec les yeux de Jésus. Eh bien, nous dit Jean-Paul II, il est le vivant. Rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer, telle est la vocation chrétienne. Rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer. Voilà les trois points de petit enseignement que je voudrais faire avec vous ce matin, de manière très très simple, sans aucune prétention. Premièrement, rencontrer Jésus. C'est étonnant de voir que beaucoup de gens n'ont pas rencontré Jésus dans leur vie. Un jour, c'était en 2005, le patriarche du Kazakhstan, pour vraiment voir Sibérie là-bas, me demande de venir. Il y avait des jeunes à Cologne, et les jeunes du Kazakhstan, ils étaient 200 catholiques, ne pouvaient pas évidemment prendre l'avion pour aller à Cologne, c'était trop loin, financièrement. On me dit, ben revenez, est-ce que vous pouvez venir prêcher pour les jeunes du Kazakhstan? Il n'y a pas de problème. Je prends l'avion depuis la France jusqu'à Francfort. Et de là, je vais prendre un avion pour le Kazakhstan. Astana, exactement. Or, l'avion pour le Kazakhstan est tombé en panne. Et comme ils n'ont pas beaucoup de moyens, il n'y avait pas d'avion de remplacement, j'ai dû attendre 2 jours bloqué à Francfort. Et j'ai ramené dans mon bagage une lettre apostolique, celle de Jean-Paul II sur Redemptoris Missio, la mission du Rédempteur, tout ce qui concerne l'évangélisation. Et alors que je lisais cette lettre dans l'aéroport, je tombe sur cette phrase. Je vous la lis dans le texte. Dans le monde moderne, dans le monde actuel, pardon, le monde actuel, le monde actuel connaît des conquêtes admirables. C'est vrai, on est capable d'aller sur la Lune, aujourd'hui, avec tous les moyens techniques, prouvés incroyables. Mais il semble avoir perdu le sens des réalités ultimes et même de son existence. Dans le monde moderne, il existe une tendance à réduire l'homme à sa seule dimension horizontale. Ce monde qui est capable d'aller sur la Lune, qui est capable des prouesses technologiques les plus grandes, on a l'impression qu'il nivelle tout au niveau horizontal, que ce soit dans les relations des uns aux autres, que ce soit dans la publicité, que ce soit. C'est pas pour dramatiser, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui nous élève. En tout cas, surtout dans le monde occidental. Là, je viens du Brésil, j'ai eu la chance de vivre 2 ans en Afrique, j'ai vécu aussi en Italie pendant 3 ans. On se rend compte que notre société française, en tout cas, je ne connais pas la Belgique, mais je crois que c'est un petit peu le même esprit. Ben, ça ne porte pas trop vers le spirituel, alors que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, c'est beaucoup plus spontané. Même si les gens disent, oui, c'est normal, ils sont moins évolués que nous, ils sont naïfs. Moi, je crois pas. Ils sont au contraire plus intelligents que nous parce qu'ils ont gardé la dimension transcendantale. Et nous, on nivelle tout au niveau horizontal. Et alors que j'ai dit, c'est ça, je suis dans un aéroport. Et Francfort, c'est le plus grand aéroport international d'Europe. Et donc, franchement, ça décolle toutes les minutes, il y a un avion qui décolle. Donc du coup, ben, vous voyez des files d'avions, c'est très étrange, à la queue leu-leu, les avions les uns derrière les autres. Alors que j'ai lu ça, j'ai imaginé que d'un seul coup, on allait ouvrir l'aéroport et que les avions allaient partir sur les autoroutes d'Allemagne, de Belgique, de France, à la queue leu-leu, sur les autoroutes. Ben, c'est marrant, non? Eh bien, ça vous fait sourire, parce que c'est vrai, c'est un peu bizarre. Il faudrait faire beaucoup de changements. Il faudrait peut-être réduire les ailes des avions, hein, et surtout augmenter la taille des feux rouges. Hein. Vous êtes d'accord? Donc, il y a un côté un peu stupide. Eh bien, c'est la même stupidité. Lorsque l'homme a perdu le sens de Dieu. Lorsque les hommes perdent le sens de Dieu, ils sont comme des avions. Ils sont faits pour le contact avec Dieu, pour s'élever spirituellement. Ils sont comme des avions qui prennent l'autoroute. Et tout le monde dit, mais c'est normal, tout va bien, on s'adapte, on fait monter les feux rouges. Mais c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et lorsque l'homme, un jour, comprend, trouve Dieu et décolle, ou lorsqu'il a la chance, depuis son enfance, d'avoir entendu parler du Seigneur, eh bien, il sait qu'un avion s'est fait pour voler, il tire sur le manche à balai, et là, il est lui-même. Comprenez ce que je veux dire. L'homme qui ne connaît pas Dieu est comme un avion sur une autoroute. Saint Paul a cette phrase dans l'Épître aux Romains, mais seuls les insensés peuvent dire qu'il n'y a pas de Dieu. Nous sommes faits pour Dieu. Évidemment, la société autour de nous, notamment la société très laïque chez nous, elle veut tout faire pour étouffer cette dimension verticale de l'homme. Et réduire tout au niveau central. Ne nous laissons pas faire. Continuons de creuser. Et c'est pour ça que la mission, ce sera le troisième point, est si importante. Parce que si toi-même, tu as compris, tu as la chance de voler, ben, tu ne peux pas rester indifférent à voir des gens et de rentrer sur l'autoroute. Ça te fend le cœur. Et tu as envie qu'ils décollent eux aussi. Comment rencontrer Jésus? Il y a plusieurs. Évidemment, on peut pas, un petit enseignement comme celui-là, faire le tour de la question. Mais il y a quand même une petite piste. C'est prendre du temps pour le connaître. Pour le connaître, je dirais même intellectuellement. Je crois que dans notre société, nos jeunes en particulier, c'est vrai que j'ai un peu plus l'habitude de m'adresser à ces jeunes, donc peut-être que vous ne retrouverez pas dans les images que je vais donner, mais je crois qu'il y a un grand problème de notre société d'aujourd'hui, c'est la perte de l'habitude de la lecture. La lecture a été, dans toute la vie spirituelle, le moyen de l'édification. Regardez des écrits comme l'histoire d'une âme de la petite Thérèse, vous allez voir comment les écrits qu'elle lisait la stimulaient. Regardez Saint François de Sales, quand il encourage, dans le traité sur la vie des votes, à la lecture de. Pourtant, le livre était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un gros problème. C'est que les jeunes en particulier, mais peut-être aussi les personnes plus âgées, passent vraiment beaucoup plus de temps devant l'écran de télévision que devant un livre. Alors, je me disais, mais c'est bien la télévision, mais c'est un peu comme ça vous. Comment dire? Ça nous anesthésie, n'est-ce pas? On est dans une passivité intellectuelle. On se gave d'images qui ne nous intéressent pas forcément, parce que ça tourne toujours en boucle. Hein. Et par contre, la lecture d'un livre, ça vous stimule, même un livre que vous avez lu, que vous relisez, ça n'a pas le même poids. Et évidemment, la lecture de la parole de Dieu, c'est tellement important, mais souvent la vie des saints ou des livres de spiritualité viennent nous permettre de relire, de revisiter ces textes que nous connaissons par cœur. C'est pas facile de dire que la parole de Dieu, elle est essentielle. On va pas revenir là-dessus, c'est essentiel. Mais il faut aussi stimuler des moyens pour s'approprier intellectuellement, vous voyez, des passages de la parole de Dieu à travers des vies de saints, à travers des livres de l'Écriture. Un jour, c'est une petite histoire que j'ai lue il y a pas longtemps, je trouve ça génial. Il y a un jour, c'est une blague, hein, je vous préviens tout de suite, c'est pas une histoire vraie. Il y a un jeune de 30 ans, on appelle ça les Tanguy chez nous, hein, c'est suite à un film assez connu. Et le gars, il a 30 ans, il est chez sa maman, célibataire, il regarde la télé avec sa maman. Bon. Et puis, il y a une émission sur un tétraplégique. Qui est complètement paralysé, qui ne peut plus bouger et qui est tenu en vie que par des machines. Il ne bouge plus, il respire que par des machines, ça. Alors le jeune était à son moment. Oh, maman, si ça devait m'arriver, si je devais être complètement tétraplégiste, complètement anesthésié et ne vivre que par des machines, et être comme un légume, je t'en supplie, maman, débranche-moi. Ma mère, elle regarde, tu es sérieux, mon fils? Oui, maman, débranche-moi. Ah bon? Elle se lève, elle débranche la télévision, elle débranche l'ordinateur, elle prend son iPad, son iPhone, son MacBook, son smartphone, elle prend tout, elle le jette à la poubelle. Et là, le jeune, il dit, là, j'ai failli mourir. Oui. Vous connaissez peut-être notre chef Sarkozy qui disait. Pour gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Moi, j'ai envie de vous dire, lisez plus pour aimer plus. Mais ne négligez pas cette dimension de la lecture dans votre vie. Vraiment. Il y en a peut-être pour vous, c'est évident, la lecture, vous aimez ça. Mais je crois qu'il faut, si en tout cas vous êtes de cette génération qui continue de lire, encouragez vos jeunes à lire. C'est tellement important parce que la lecture est un grand stimulant pour la vie spirituelle. Il ne faut pas négliger cet aspect. Alors voilà pour le premier point. Donc, rencontrer Jésus. On pourrait juste rajouter un petit passage dans l'encyclique. Ça va demain, non ? J'espère pas. Lumen Fidei, le pape François, Benoît XVI, je vais dire tous les deux, font une petite subtile à propos de ce que j'ai dit hier. Il parle de cet acte de confiance. Vous voyez, dans la vie, on doit faire confiance à des gens. Comment connaître Jésus ? Par connaître Jésus. Vous faites bien confiance à votre architecte qui construit votre maison. Et vous ne savez pas construire une maison, mais pourtant vous lui faites confiance. Vous faites bien confiance à votre pharmacien. Quand il vous donne un médicament, vous allez dire, alors expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire que telle molécule, pour que je sache ce que j'ai mangé. Vous ne savez même pas ce que c'est que cette pastille, vous la mangez parce qu'on vous a dit que c'était bien. C'est aussi bien, ça va vous tuer. Ben oui. Il y a quelqu'un dans la rue qui dit, tiens, prends ça, mange-le, ça va te faire du bien, tu ne vas pas le manger. Tu n'as pas confiance en lui, tu ne le connais pas. Mais ton médecin ne te discute pas, tu le prends. Eh bien, pour les choses spirituelles, pour les choses de Dieu, il nous faut que quelqu'un en tienne absolument confiance. Nous dit le même fidèle. Et cette personne de confiance, c'est le Christ. Et il dit cette petite subtile précision, il dit, on peut croire Dieu à Dieu ou croire en Dieu. Je crois à ce que tu me racontes, donc je crois que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité, etc. Et puis je crois en toi, je te fais confiance. On peut croire à Dieu, c'est croire que Jésus est vraiment vivant, c'est déjà une première étape, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il a bien existé, mais on peut aller plus loin. C'est croire en lui. C'est-à-dire tout lui donner, lui faire totalement confiance. C'est un passage qui est important. Croire à Jésus, intellectuellement, et croire en Jésus, adhérer pleinement avec notre cœur, notre volonté, notre intelligence, notre affectivité. Deuxième point. Aimer Jésus. Une fois que je l'ai rencontré, il va falloir l'aimer. Alors, moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas très à l'aise à ce que je parle aux jeunes pour parler tout de suite des problèmes de sexualité. Il y a des prédicateurs, c'est un peu leur talent. Mais c'est très bien. Hein. Il faut prêcher la fragilité en mariage, il faut prêcher la pureté, tout ça. Je suis à fond pour, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Mais je vous dis, le jeune, il est à peine dans la première phase d'essayer de comprendre quelque chose à la fois. Et quand tu viens lui parler déjà de tous ces problèmes-là, nanani, nanana, je dis, mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord que le jeune fasse la rencontre de Jésus? Parce qu'une fois qu'il a rencontré, il a envie de l'aimer. Mettons pas la charrue avant les bœufs. Et vous, comme parents, attention, ne pas trop. Hein, c'est un peu cette tentation parfois de la morale, la morale, la morale. Si nous ne sommes pas d'abord un code éthique, nous sommes un peuple de Dieu qui doit rencontrer une personne. Et lorsque tu l'as rencontré, tu deviens son ami. Et ça devient beaucoup plus facile. Un jeune qui a vraiment fait cette rencontre, il a petit à petit envie d'aimer Jésus. Et du coup, naturellement, il va se poser des questions sur ce qui l'empêche d'aimer. Vous voyez ? Et ça aussi, c'est important. Aimer Jésus vient en deuxième. Je le rencontre et ensuite, j'apprends à l'aimer. Donc, du coup, il y a toute cette notion de comment aimer Jésus. Évidemment, avant de parler de ce qu'il ne faut pas faire, je voudrais commencer par ce qu'il faut faire. Alors, vous allez me dire ce que tu vous dis, Père, c'est vraiment un béaba. C'est béaba, mais j'insiste encore. Dans le cadre de l'Église catholique, il est parlé du point de prière. Je suis étonné de voir que quand je visite des familles bien gâteaux, je ne parle pas des familles qui sont pratiquantes, ça. Là, ce qui est le point de prière, c'est la télévision. Je reviens là-dessus, mais je m'excuse, mais c'est vrai. Quand on arrive dans un salon, tout est tourné autour de la télévision. Puis des fois, dans un petit coin, il y a une petite statue, il y a une petite icône, la pointe au mur, et éventuellement une petite statue quelque part. Faites un petit examen de conscience personnelle. Quand on rentre chez vous, qu'est-ce qu'on voit en premier? Alors, un jour, je prêchais comme ça en Tchécoslovaquie. Il y avait en Tchéquie. Et il y avait une paroisse, c'est une paroisse d'un petit village de campagne. Et chaque famille, c'était la tradition là-bas, faisait du vin. Par famille. En France, on n'a pas ça. On a des familles de vignerons. Mais dans un village, là, c'est un peu la tradition. Et chaque famille a ses villes. Et chaque famille a à l'extérieur du village une sorte de. Ça ressemble presque, enfin, je m'excuse, mais une rue presque, tu sais, on a des grands aussi, tu sais, il y a des grands mausolées là. Il y a comme ça, des entrées les unes après les autres. Sur toute une ligne, sur un kilomètre, comme ça, c'est l'entrée de la cave. Vous rentrez par la porte et en fait, vous descendez dans la cave, c'est incroyable. Et là, vous avez une salle avec des tables en bois, pour boire, simplement pour goûter le vin de la famille, c'est tout. Et c'est vraiment impressionnant. Alors je leur disais, quand je vois tout ce que vous mettez en place pour le vin, qu'est-ce que vous mettez en place pour Jésus dans votre maison? Le lendemain même, il y avait déjà plusieurs paroissiens qui sont venus me trouver. C'est la Tchéquie, hein, c'est tout ouvert. Ils avaient pris une chambre de leur maison. Ils avaient fait un oratoire. Magnifique. Incroyable. Mais vraiment, prendre un lieu vraiment pour Jésus, ça aide tellement. Pour les familles qui ont du mal à faire prier leurs gamins, moi, je n'ai pas de leçon à donner, mais j'ai remarqué, parce que j'ai beaucoup d'amis très croyants, et quand je viens les visiter, on mange ensemble, et après, on prie avec les enfants, parce qu'il y a un moment très touchant pour un prêtre. Mais on voit bien la différence de ceux qui ont vraiment consacré un lieu et ceux qui, bon, s'assied sur les fauteuils, on essaye. Voilà. L'ambiance, mettre une petite bougie, une icône, les icônes, ça nous parle tellement du Seigneur. Baisser la lumière. Moi, j'ai dit que l'électricité, ça tue la spiritualité. C'est vrai. Si vous êtes amoureux, imaginez votre histoire d'amour, hein, celle que vous avez imaginée. Imaginez que votre galant vous amène au restaurant la première fois. Il ne va pas vous amener au McDo, quand même. Il va vous amener dans un petit truc, un peu feutré, une petite lumière douce. C'est ça, ils sont malins, ils ne sont pas fous, les mecs. Hein, voilà. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil, il a des sens, on est de chair et d'os. Moi, j'ai pris 10 fois mieux quand j'éteins la lumière, que j'ai mis une petite lampe de chevet, que je m'installe bien, que j'ai mis les 2 bougies éclairées par la bougie. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Si vous ramenez un peu dans la prière, posez-vous la question, comment vous faites votre point de prière? Comment vous prenez des moyens humain pour mieux prier. Ensuite, un autre point très important, c'est passer de la prière vocale à la prière méditative et à la prière silencieuse. C'est tout un chemin. Ce que je dis, ça veut dire que vraiment le permis qui ne nous apprend pas grand-chose, il dit que des choses bien. Je suis désolé, je tremble un peu de passer après le père Berlin, mais c'est comme ça. Je fais ce que je peux, je ne sais pas trop faire autrement. Alors, la prière vocale, au début de la conversion, on a besoin de s'accrocher à un temps de prière. Par exemple, le chapelet. C'est pas facile, mais c'est une prière qui est très moderne, le chapelet. Je ne parle pas dessus, je vais déjà dire en introduction. Parce que c'est un chapelet, on peut le dire n'importe où. Tenez, j'étais à Rio de Janeiro. Il y a 4-5 jours. J'étais avec mon guide brésilien. Et dans le bus, je lui dis, allez, on va dire le chapelet. On dit à voix haute, parce qu'au Brésil, on ne se gêne pas. Moi, j'ai toujours mon chapelet dans le bus, mais en France, je le dis plutôt à voix basse. Et tout le monde me voit le dire, voilà, j'aime bien, c'est Jean-Paul II dit dans la lettre aux jeunes, c'est « Vous qui êtes jeunes comme l'apôtre Jean, prenez Marie chez vous, n'ayez pas peur de dire le chapelet dans les transports publics !» C'est écrit texto, vous le lirez. Donc moi je dis le chapelet, vous y croirez ou vous y croirez pas. Avec Joao, on était à la fin de la première dizaine, on voit rentrer un Brésilien qui a une statue dans les mains, une statue de la Vierge comme ça, et qui s'assied devant nous et qui dit, il va vous échapper, il fait ce signe de croix et il répond avec nous. Du coup, je lui dis, à la fin de la première dizaine, comment s'appelle ta famille? Il avait sa femme, et 2 petits boutiques, il était tellement jeune, j'aurais jamais cru que c'était un papa, parce que les Brésiliens sont beaucoup plus jeunes que leur âge, c'est impressionnant. Et donc, du coup, j'ai dit la dizaine pour sa famille. À la fin du chapelet, il me présente cette vierge, il me dit, cette vierge-là est apparue en Amazonie, ça a été reconnu par les Grecs. Et vous savez, le message de cette statue, c'est ceci. Tous ceux qui prieront le chapelet, je serai là auprès d'eux. Nous, on dit le chapelet dans le métro, et la Vierge vient là auprès de nous. Avec ce message de la Providence, c'est dingue. Hein? Voilà, mais ça, c'est des petits clins d'œil, des clins d'yeux de la Providence qui nous aident énormément. Donc, le chapelet prie à vocal. Mais ensuite, on ne peut pas rester là. Il faut entrer dans la fréquentation de la parole de Dieu. Et là, je vous invite à faire quelque chose de magnifique, si vous ne le faites pas encore. Saint Ignace de Loyola a inventé une retraite atomique. Une retraite atomique, ça veut dire une manière de faire des retraites qui n'a pas été démodée depuis le XVIe siècle. Vous êtes ici avec la communauté d'Emmanuel qui essaie de trouver des prédicateurs où nous essayons, malgré nos pauvretés, de vous donner le maximum. En entendant le prédicateur, il y a peut-être une ou l'autre phrase, une ou l'autre parole qui va toucher ton cœur, et c'est ton mot. Moi-même, j'ai besoin d'entendre des prédicateurs, et c'est ton mot. Mais, cet idéal de l'homme-là, il a trouvé quelque chose de mieux que le prédicateur. Il a dit, je vais faire des retraites dans lesquelles, et on a un pape jésuite, hein, c'est en ce moment d'en parler, décidément, les cloches ici, elles existent, hein. Ah, parce que vous croyez qu'on fait comme si ça avait envie de leur dire, oh, ça va, je parle, chacun son tour. Donc, il a dit, je vais faire des retraites dans lesquelles il n'y a pas de prédicateur. Retraite d'initiation, vous allez, le gars qui est votre accompagnateur, non pas votre prédicateur, il a, alors une retraite de 10 jours ou de 30 jours, ça dépend pas, c'est 10 ou 30, c'est la formule. 4 heures par jour, il te dit, tu prends tel passage de la parole de Dieu, et tu vas prier. Alors attention, tu prends le passage, tu le prépares, il te donne quelques petits points, tu le divises en trois, pour le temps, pour le temps. Tu te fais tes, à partir de ce que tu as lu, qu'est-ce que tu vas demander à Jésus, tu prépares ça avant. Ensuite, tu vas avec ta parole de Dieu, sans papier, c'est pas l'étude. Et pendant une heure, tu fais l'horizon. Une heure, pas 55 minutes, tu fais bien une heure, parce que Jésus a dit, hein, à Gethsémani, vous n'avez même pas pu veiller une heure avec moi. Je vous souhaite un jour d'arriver à prendre régulièrement une heure d'horizon. C'est pas pareil qu'une demi-heure. C'est bien de commencer par un petit peu, mais petit à petit, il faut progresser. Bref, tu restes là. À la fin, tu sors de l'oratoire, tu vas marcher un peu 5 minutes, tu t'assieds et tu notes les lumières que Jésus t'a données. Et tu refais ça, rebloque 4 fois dans la journée, 4 heures, donc 40 heures d'horizon en 10 jours. Donc je ne vous dis pas combien ça fait en un mois. C'est pas mal. Impressionnant. Parce que le prédicateur, il dit rien. C'est Jésus qui vient te prêcher. Au début, c'est dur, c'est un peu aride, mais c'est impressionnant comme le Seigneur parle. C'est n'importe qui peut faire, à votre petit niveau. Vous préparez la parole de Dieu, ça peut être l'évangile du jour. Vous le lisez un petit peu avant. Et puis, prenez un petit peu de papier et dites, Jésus, voilà ce que je vais te demander. Et là, vous mettez en horizon, même que 10 minutes, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez le travail, etc. Juste 10 minutes d'horizon, et là, vous avez le texte, vous le relisez. Jésus, qu'est-ce que tu veux me dire là? Et vous entrez dans la méditation comme ça. Et puis, petit à petit, le silence se fait. Petit à petit, à force de prier comme ça, vous allez vivre de ce qu'on appelle la contemplation, c'est-à-dire une présence de Jésus toute simple, dans laquelle l'esprit ne travaille plus, mais vous vous sentez non pas dans une absence, dans un vide, mais dans une présence. C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'échelle, hein, oratio, méditation, contemplation. Et ensuite, action. Et non pas action au début. C'est-à-dire que ça va nous demander d'agir, mais ça va être mon dernier point. Mon dernier point, quand vous avez, quand vous êtes entré dans la rencontre de Jésus et l'amour de Jésus par ces petits points que je viens de vous donner, et en particulier par l'horizon, le Seigneur va vous amener à la dernière étape, le faire aimer. Le pape François a dit dans une homélie, vous n'êtes pas des coiffeurs. Si tu as lu ça, personne n'a lu. Sur Zénith, là, tu n'as pas lu, mon père, vous n'êtes pas des coiffeurs, ça dit quelque chose ou pas? C'est excellent. Le pape François, je vous conseille de vous abonner à Zénith. Moi, ça fait longtemps que je suis abonné à Zénith, ça reçoit tous les jours les textes officiels qui viennent de Rome. Mais alors avant, je le lisais en diagonale, mais maintenant, depuis qu'il y a le pape François, je me régale parce qu'il redonne l'homélie du matin. Ça n'avait jamais arrivé avant. Jamais on avait l'homélie du matin du pape, parce qu'il ne faisait pas l'homélie. Le pape Benoît XVI, il était dans cette petite chapelle avec deux personnes, et voilà. Mais lui, François, il est bizarre. Il est complètement audacieux, il prend le micro, quand il n'a même pas le micro, il fait une petite chapelle avec tous les gens qui viennent là, les gens qui font le ménage, les gens de loin, il vit avec les gens, et il fait une homélie spontanée. Ce jour-là, c'était l'homélie, vous savez, lorsque l'homélie du bon pasteur, lorsque Jésus dit, il y avait un bon pasteur, il avait 99 brebis, les 99 brebis étaient dans l'enclos, il en manquait une. Il a laissé les 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue. Il dit, mais aujourd'hui, dit le pape François, c'est le contraire. Il y a une brebis dans l'enclos et il y en a 99 dehors. Qu'est-ce qu'on attend pour aller les chercher? Mais pour ça, il faut de l'effort, de la générosité. Oui, mais, dit-il, c'est tellement plus sympa
pour s'occuper de la petite brebis qui est restée dans l'enclos. On la caresse, on la parfume, on la coiffe. Et là, il demande François à cette formule choc, il dit, oh, vous n'êtes pas des coiffeurs, vous êtes des pasteurs. Et là, ça, c'est pas au prêtre, j'ai bien relu. Hein. Au prêtre, il nous parle pas mal, hein, on en voit. Hein. Tous ceux qui ont des grosses voitures, là, on est mal. Hein. Oh là, hein, j'ai tout ce qu'il a sorti. Quand il se balade dans les rues de rue avec une fière plutôt, ça va, on a compris le message. Bon, bref, il nous taille pas mal. Mais là, ce truc-là, c'est pas que pour les prêtres, c'est pour tout le monde. Tu es concerné toi aussi. Tu es concerné toi aussi. Est-ce que tu aimes bien coiffer ta petite brebis de ton groupe de prière, de ta communauté, de ta petite session? Hein? Alors, il nous faut évangéliser. Malheureusement, je suis déjà à la fin de l'enseignement, donc je vais devoir finir. Je vais finir avec une petite histoire très concrète sur l'évangélisation. Hier, je vous ai déjà parlé, ne parle pas du Christ. Vous vous rappelez de cette histoire de Paul Claudel, là, et, etc. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Et je vais finir avec une petite souris qui va vous montrer comment, lorsqu'on veut être un instrument d'évangélisation, on peut l'être. C'est d'autant plus touchant de vous le raconter que l'acteur de ce souris est un Belge. Hein? Un Belge. Mais je ne me rappelle plus de son prénom, je n'avais pas rappelé son nom de famille, Mathieu, pour ce, il a fait l'école jeunesse lumière, une famille très présente, d'ailleurs je confie son papa, qui malheureusement a un cancer, mais je n'avais pas me rappeler depuis hier, je recherche le nom, et je n'avais pas rappelé son nom de famille, peut-être c'est un bon moment. Nous sommes, donc j'étais avec l'école d'évangélisation jeunesse lumière, et on faisait une mission très simple. Comment faire une mission pour aller chercher les brebis perdues loin? Il y a des techniques, il n'y a pas qu'une technique, il y a des milliers de techniques. La communauté des manières, depuis des années à Paris, a ce courage d'aller dans la rue avec une guitare, une icône, faire un peu de manche pour les gens savent juste que vous êtes parés ou quoi, vous êtes illuminés ou quoi. Mais ça permet de dialoguer et de toucher les deux. Alors nous, la formule était un peu différente. On choisit, ce que je vous dis ça, c'est parce qu'on prédit de le vivre, hein, avec votre curé et un peu d'audace. Et si possible avec des jeunes, c'est plus facile avec des jeunes parce qu'ils n'ont pas peur. Ils sont un peu audacieux, ils sont plus fous ces jeunes. Donc, vous choisissez une église, pas loin d'un marché. Là où il y a le marché. Tout le monde a dans la tête une église pas loin de votre marché? Oui? Oui ou non? Vous avez peur, hein? Si jamais je dis oui, je vais devoir le faire, c'est ça. Alors, ensuite, vous demandez à votre prêtre qui dispose de ses sacrements si c'est possible. Bon. C'est, deux fois ça marche, n'ayez pas peur. Donc, prière de 10h à midi, vous demandez à des paroissiens qui ont peur d'aller évangéliser de prier devant ces sacrements. Et vous, avec l'équipe de missionnaires, vous dites voilà, on va partir dans la rue avec un petit flyer, très simple, c'est vachement utile le flyer. Et le flyer va inviter, non pas au grand rassemblement de Rio de Janeiro, non, à midi, dans l'instant qui suit. Nous sommes la paroisse catholique de machin, vous invite à un temps de prière de midi à midi et quart. En fait, le flyer, c'est juste l'approche qui vous permet d'aller au contact. Si vous avez 20 flyers, ça veut dire tract, vous devez rentrer avec combien de flyers à la maison? Oh, qu'est-ce que vous êtes mauvais! Vous êtes des commerciaux! Moi, je fais des évangélisateurs! Vous rentrez avec 19! Parce que si possible, vous avez une rencontre, vous avez parlé de tout pendant 2 heures! C'est ça le but. On n'est pas là pour discuter de faire, on est là pour faire des rencontres. Hein? C'est un piège, quand même. Donc vous partez avec 19 flyers, mais vous espérez en distribuer le moins possible. Le but, c'est pas de faire. On veut pas trop pour McDonald's, nous. Hein? On veut rencontrer des âmes, faire des discussions. Donc vous partez avec votre flyer. Alors voilà que le fameux Mathieu part avec Liga en lituanien. Ils partent 2 par 2, c'est très important, 2 par 2. Si possible, garçon-fille, c'est un équilibre. Parce que si vous avez une fille qui va avec 2 mecs, elle s'en sort un peu gênée. Donc avec le garçon-fille, c'est pas mal utile. Et on part. Alors, ils vont dans la rue et ils disent aux gens, bonjour. Et ils disent, est-ce que vous voulez venir à un temps, on est en paroisse catholique, déjà la paroisse catholique, nous vous invitons à un temps de prière, si vous voulez. Non, ça ne m'intéresse pas. Ils disent, alors, si ça vous dit, est-ce que vous voulez nous confier une intention de prière et nous prierons pour vous? Ça marche tous les coups, c'est incroyable. Les gens ne veulent pas trop discuter, mais donnez dans son prière, même s'ils disent qu'ils ne croient pas, je ne sais pas pourquoi, ça marche. C'est un peu la superstition, mais bon, c'est comme ça. Et là, vous notez. Allez, oui, priez pour ma grand-mère qui est malade, priez pour mon fils. Les gens se mettent à déballer des trucs, c'est incroyable. Et donc, vous notez leur intention. Et vous revenez à l'église à midi.
divers outils. Pendant ce temps-là, j'ai oublié de dire, ceux qui ne se sentent pas d'aller missionner prient en sacrement. Donc il y a toujours des personnes, souvent des personnes âgées, qui ne sont pas aussi à l'aise pour aller évangéliser. Et ça, c'est magnifique devant la complémentarité des ministères dans l'Église. Bon, on arrive, et là, qu'est-ce qu'on fait? On est devant ces sacrements, les jeunes se lèvent, on prend la guitare, la louange, on chante le Seigneur devant ces sacrements, et on, au lieu de dire, oui, alors moi, j'ai été très touché, parce que j'ai rencontré, moi, je vais me raconter leur vie, ça, moi, j'ai le retour de mission, des fois, c'est plus simple, on prend le micro et on prie le Seigneur en disant, merci Seigneur, je te confie Albert qui a un problème, allez, et on prie comme ça. Donc ça fait un retour de mission, en même temps on entend, et en entendant on est édifié. Et voilà que ce jour-là, ça se passait à Tasse, une petite ville dans le Tarn. On a fait cette mission quand je viens de décrire. Une femme, au moment où on allait finir la mission, j'avais le micro comme ça, les jeunes avaient fini, mais qui allait prendre le micro pour faire la dernière prière de conclusion et bénir avec ses sacrements. Une femme prend le micro. Elle nous avait rejoint. Or, rassurez-vous, il n'y a jamais beaucoup de monde. Hein. Ça dépend, mais là, en tout cas, il n'y avait pas où. Si on était une vingtaine de missionnaires, il y avait à peine 5-6 personnes qui nous avaient rejoint. Cette femme-là prend le micro et elle dit ceci. Seigneur, je te remercie pour ces deux jeunes que j'ai rencontrés dans la rue et qui m'ont invité à venir ici. Car, comme tu le sais, depuis 6 ans, depuis la mort de ma fille d'un accident de voiture, je n'ai jamais pu remettre les pieds dans une église. Cette rencontre a illuminé ma journée et certainement même toute ma vie. Alors, dans les jeunes, il y a un jeune qui s'appelle Mathieu, il est belge. Mathieu se dit, il y en a marre. Chaque fois que le père Luc nous raconte des histoires de mission, des séries de mission, il y en a un paquet, dont il y a d'autres dans le livre. Et il y a toujours des trucs super, et moi, il m'arrive jamais rien. J'aurais bien aimé savoir, j'aurais bien aimé être à la place de ceux qui ont évangélisé cette femme. Donc, un peu distrait, il se retourne pour voir qui c'est la dame. Et il se dit, ah, mais ça alors, c'était lui qui l'avait évangélisé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous l'a raconté après, parce que la femme n'est pas restée. Parce qu'en général, moi, je dis aux gens, voilà, maintenant, on va manger des pizzas, si vous voulez rester avec nous, ça, mais elle n'avait pas osé rester, elle était partie. Donc, Mathieu nous raconte. Il arrive, il voit cette femme passer. Bonjour madame, nous sommes des jeunes catholiques, on voudrait vous inviter, est-ce que vous êtes bienvenue? Oui, je vous dis peut-être, merci, au revoir, elle est partie. C'est tout. Ils avaient l'impression que c'était nous qui avaient raté leur évangélisation. Pourtant, cette femme-là a été touchée. Elle est venue et elle est revenue à l'église parce que ces deux jeunes ont eu l'audace, le courage, la générosité d'aller chercher une des 99 brebis au lieu de rester à se coiffer tranquillement dans l'église. C'est pas magnifique, ça. Applaudissez ce jeune, ces jeunes qui sont tellement missionnaires. Je conclue avec cette image très simple. Un jour, un petit enfant, alors ça je sais pas si c'est vrai ou pas, je l'ai lu dans une histoire que j'ai lue, se trouve sur une plage, je sais pas trop où il y avait une marée haute, marée basse, et un banc d'étoiles de mer, ça c'est belle étoile de mer toute rouge, qui s'est échouée sur la plage. Des milliers d'étoiles de mer. Tu sais, c'est des catastrophes comme ça, c'est lié à des phénomènes que je ne connais pas, moi je suis passé de connaissance là-dedans. Ce petit enfant, il voit ça. Des milliers de petites étoiles de mer en train de manquer d'eau, il en prend une. Il se dépasse. Il la remet à l'eau. Il va en chercher une autre. Et il continue comme ça. Il y a un adulte qui passe. Il le regarde. Et il dit, mais écoute mon enfant, c'est ridicule. Arrête-toi. T'as vu combien il y en a? Ça ne sert à rien. Et le petit a une étoile dans la main. Il le regarde et il dit, en tout cas, parce que là, ça sert. Tous les petits efforts que vous ferez dans votre vie, tout simple soit-il, faites-le en priant Marie, étoile de l'évangélisation, pour que vous puissiez toujours plus rencontrer Jésus, l'aimer et le faire aimer. Amen.